Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. La semaine dernière, nous parlions d'un sujet profond, philosophique. La liberté peut-elle survivre sans la vertu? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus d'actualité. On va reprendre les élections en Hongrie qui sont déroulées ce dimanche dernier, donc des élections législatives qui ont été remportées par Peter Magyar. Alors déjà, Peter Magyar, je veux dire, c'est comme si quelqu'un s'appelait, je sais pas,
Français.
Pierre-François ou Pierre Gaulois en français, voilà, quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est...
Il a un avantage de départ,
Ah, c'est sûr.
c'est comme De Gaulle. Ah oui, la Gaule et les Gaulois, oui, on connaît, oui.
Oui, c'est clair. Et donc il a remporté une victoire assez historique aux élections législatives hongroises, donc du 12 avril. Son parti a recueilli environ 54% des voix et a obtenu 138 sièges sur 199 au Parlement, donc une majorité des deux tiers. Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, a donc concédé sa défaite après 16 années de règne, ce qui est au passage, comment dire,
Et beaucoup.
voilà, ce qui est beaucoup. Et puis, je veux dire, certains commentateurs accusait ces dernières années Viktor Orban d'être très autoritaire, voire presque dictatorial. Bon, un dictateur qui concède une défaite électorale, ça arrive pas tout le temps non plus.
Non.
On va en parler d'ailleurs. Cette alternance donc marque la fin d'un système souvent qualifié d'illibéral. C'est la fameuse droite illibérale européenne et qui ouvre la voie à une nouvelle réorientation donc en Hongrie plutôt vers l'Union européenne. On va essayer de comprendre un petit peu en quoi
Oui,
consiste
c'est pas
ce
aussi sûr
changement.
que les commentateurs français le disent, mais c'est pas impossible.
Voilà, c'est-à-dire qu'on va essayer de démêler le vrai du faux, et puis il y a aussi les paroles, et puis après on verra les actes, et ça pour l'instant ils sont difficiles à prédire. Mais enfin déjà, qui est donc le nouveau Premier ministre hongrois? Déjà c'est quelqu'un qui adhère au Fidesz il y a plus de 20 ans, en 2002, donc à ce moment-là, lorsque le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, est dans l'opposition, et d'ailleurs après la victoire d'Orban en 2010, il intègre le ministre des Affaires étrangères. Il participe à la présidence hongroise de l'Union européenne en 2011 au sein de la représentation permanente à Bruxelles. Il occupe des fonctions ensuite de haut niveau dans des entreprises publiques, direction juridique de la Banque d'État, puis présidence du centre de prêt aux étudiants entre 2019 et 2022. Il est marié à la ministre de la Justice entre 2019 et 2024. Enfin bref, c'est quand même quelqu'un qui déjà dans un premier temps participe largement à l'administration d'Orban, donc c'est pas quelqu'un de l'opposition à gauche, premièrement. Ensuite, c'est à peu près à partir de... Ouais, c'est en février 2024 qu'il décide de rompre avec cette administration. Il y a à ce moment-là un scandale en Hongrie, un scandale de la grâce présidentielle accordée à un condamné dans une affaire d'abus sexuels sur mineurs, qui entraîne la démission de plusieurs membres du gouvernement. Et derrière, juste le mois suivant, en mars 2024, il prend la tête du parti TISZA. Je sais pas si je le prononce correctement, mais enfin bon, on va faire comme si...
Personne parle le
L'hongrois.
hongrois.
Si par hasard il y a des locuteurs de
C'est
la langue,
comme les
ce qui n'est
Finnois
pas...
ou les Basques, il y a des gens normaux, mais la plupart du temps, les gens ne le parlent pas.
Voilà, c'est ça. Je sais même pas si ChatGPT parle le hongrois. Mais bref, il obtient ensuite 30% des voix quand même aux élections européennes, donc qui se sont déroulées quelques mois plus tard, en 2024, et 7 sièges au Parlement européen. Il rejoint à ce moment-là le groupe du Parti populaire européen, c'est-à-dire globalement le groupe de centre-droit. C'est le groupe des LR, autrefois des conservateurs anglais, etc. Et s'impose comme à ce moment-là le principal challenger d'Orban. Alors, ses positions politiques, c'est en gros une espèce de recentrage conservateur pro-européen plutôt libéral, mais enfin, quoique, on va essayer de s'intéresser à ce qu'il propose. Son programme insiste sur le rétablissement de l'état de droit. Il promet de restaurer l'indépendance de la justice, des médias, de limiter à deux les mandats de députés et de premier ministre, d'intégrer le parquet européen pour lutter contre la corruption. Il s'engage à débloquer les fonds européens qui ont été gelés, estimés à environ 20 milliards d'euros, afin de relancer l'économie stagnante. Sur le plan social, son programme prévoit de doubler les allocations familiale gelée depuis 2008, de revaloriser les petites retraites, d'abaisser l'impôt sur le revenu des bas salaires de 15 à 9%, une taxe annuelle de 1% sur la fortune supérieure à 1 milliard de forint, ça aussi je sais pas si je prononce correctement, donc ce qui correspond à peu près 2,6 6 millions d'euros qui compléterait ces mesures. Donc c'est une sorte de demi-taxe Zucman, pas de 2% mais de 1% sur le patrimoine. Donc là pareil, quand on dit conservateur libéral, ça dépend sur quel plan quoi. Le parti annonce également une augmentation de 25% des salaires dans l'éducation, la protection de l'enfance et les services sociaux, ainsi qu'un assouplissement des conditions de retraite pour les hommes après 40 années de cotisation. En matière d'immigration, il reste très ferme. Il entend même stopper le recours organisé aux travailleurs étrangers mis en place depuis 2022 et maintenir la barrière frontalière. C'est-à-dire que il reproche presque, même carrément, à Orban d'avoir été trop laxiste sur l'immigration. Depuis quelques années, la Hongrie a un recours légal à l'immigration dans le domaine du travail, notamment. Alors ça, pareil, on verra si ça sera véritablement mis en place, puisqu'il y a un truc qui s'appelle quand même la démographie. Le taux de natalité en Hongrie actuellement, c'est à peu près 1,4, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas inférieur à 1,6, ça c'est certain. Par conséquent, forcément, vous pouvez avoir quelques déficits de personnes dans le monde du travail. Sur le plan énergétique, il fixe comme objectif la fin de la dépendance au gaz russe d'ici 2035, le doublement de la part des renouvelables d'ici 2040. Il soutient une adhésion à l'eurozone une fois les critères de Maastricht remplis et vers 2030 renforce l'ancrage dans l'OTAN tout en prenant une politique étrangère plutôt pragmatique vis-à-vis de la Russie. Et enfin, par rapport à l'Ukraine, il refuse l'envoi d'armes et ainsi qu'une adhésion accélérée à l'Union européenne, préférant une consultation nationale. Et il présente son projet comme une espèce de New Deal hongrois qui romprait avec le clientélisme, sans rompre avec les valeurs conservatrices. Donc voilà en gros ce que nous propose ce nouveau Premier ministre. Alors il y a des trucs, comment dire, une espèce de positionnement général avec lequel je ne suis pas forcément en conflit. Après, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne stratégie de vouloir comme ça se rapprocher de l'Union européenne?
Bon, oui, ça c'est à chacun de décider, c'est. Mais. L'analyse que faisait Orban, c'était que l'Union européenne était sur une voie, si j'ose dire, internationale qui visait à détruire les nations et que ce n'était pas son objectif pour la Hongrie. Je ne crois pas qu'on puisse se rapprocher de l'unité de l'Europe officielle en prétendant continuer à être un État souverain, quoi.
Oui.
Donc la question qui va se poser très rapidement à ce gars-là, c'est est-ce qu'il est pour la souveraineté hongroise ou est-ce qu'il est pour la souveraineté européenne? Mmh. C'est la question pour la justice, pour l'immigration, pour il va se heurter à toutes les choses auxquelles se sont heurtés les Britanniques. Et je sais pas trop comment il va s'en sortir parce que ils sont tous très gentils. On va se rapprocher de l'Europe, mais on va rester souverain. Ouais. C'est être un gros partisan de l'eau sèche, qu'on rajoute de l'eau et ça devient mouillé.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il y a toute une série de gars comme ça qui font des politiques dont ils disent qu'elles sont nationales et tout, mais qui vont pas au fond du problème. C'est que la construction européenne telle qu'elle est partie est une entreprise de destruction des souverainetés de chaque nation. Et c'est de plus en plus évident. Donc on peut pas être à la fois dedans et dehors, quoi. C'est...
Oui. Oui, c'est
ça. Alors il a utilisé ça pour être élu. C'est très bien pour lui. Il est élu. Et puis, il est évident que 16 ans, c'est très long pour quelqu'un d'être au pouvoir. Moi, je trouve qu'au bout de 10 ans, il est normal que les gens s'en aillent, quoi, parce que 10 ans, c'est quand même très long.
Et en plus, il est de manière continue au pouvoir depuis 2010, et il avait déjà fait un premier mandat entre 98 et 2002.
Oui.
Donc ça fait 20 ans en cumulé, quand même.
20 ans cumulé, donc si vous voulez, toujours pareil. Si vous voulez, moi j'ai connu Mme Thatcher en Angleterre, qui a fait du très bon boulot, ça va sans dire, mais à la fin de ces 10 ans ou 12 ans où elle était au pouvoir, elle raisonnait de travers, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme ils ont eu raison souvent, ils pensent qu'ils ont raison toujours, et là, à ce moment-là, c'est le moment où il faut les virer, quoi.
Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, même Viktor Orban, au début, quand il arrive, d'autant plus en 98, c'est un peu le symbole en Hongrie de la transition de pouvoir post-communiste, voilà, c'est-à-dire que vraiment, on part du monde communiste, donc un monde très à gauche, très collectiviste, et à ce moment-là, en fait, il a justement un mandat très libéral-conservateur.
Hein, oui, c'est ce qui s'était passé en Tchéquie aussi, où il y avait eu... deux gars absolument remarquables qui étaient venus l'un derrière l'autre au pouvoir. Mais il faut savoir s'en aller.
Ouais. Oui, et puis après, il faut dire les faits, c'est-à-dire que Viktor Orban s'est quand même arrangé pour effectivement avoir une espèce de contrôle accru sur les médias, sur la justice. En gros, ce qu'il avait réussi à mettre en place, c'est que il y avait comme des espèces de consortiums de fondations, avec notamment des amis de Viktor Orban, plutôt fortunés, qui ont réussi à racheter tout un tas de médias sur place, et donc forcément les médias étaient beaucoup plus.
Vous voulez dire qu'il a fait ce qu'a fait monsieur Pigas et monsieur Veil, c'est la même idée, hein, les médias étaient contrôlés par 400 personnes.
Voilà, c'est un peu partenariat public-privé en plus.
Comment peut-on faire des choses comme ça? C'est pas en France qu'on veut des trucs comme ça.
non, jamais, bien sûr.
On le voit d'ailleurs tous les jours avec les enquêtes de monsieur Alloncle, là, on sent bien qu'ils sont d'une honnêteté, d'une. À laquelle il faut savoir rendre hommage, quand même.
Oui, mais justement, voilà, il faut faire preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle, et si on dénonce tout à fait à raison les partenariats publics-privés et simplement la politique du service public dans le domaine audiovisuel et médiatique en France, je constate qu'il faut le faire aussi par rapport à ce qui s'est passé en Hongrie, parce que voilà, nous on est plutôt des libéraux dans cette maison.
L'essentiel, si vous voulez, c'est que il faut laisser les gens parler librement. Et, c'est ce qu'il y a dans. Est-ce qu'il y avait. Je pense pas qu'il y ait eu un audiovisuel public d'opposition en Hongrie. Il n'y avait pas de.
Non, ça, je crois pas.
Donc, il avait essayé de prendre le contrôle des médias, ça va sans dire, mais il n'avait jamais enlevé le contrôle des médias à la gauche institutionnelle, quoi.
Oui.
Puisque c'était la communiste qui avait été virée, quoi.
Mmh, oui.
Nous, malheureusement, quand il y a eu la chute du mur de Berlin est tombée, on ne s'en est pas rendu compte. Donc,
non.
On a gardé le ministère de la Culture, tout ça, on l'a gardé, quoi.
Oui, mais ça, on a gardé, oui, effectivement. Ça faisait pas partie du problème, apparemment.
Ça faisait partie du problème, donc, si vous voulez. Donc, on peut comparer la situation française où il y a des médias qui sont contrôlés par quelques hommes richissimes, mais. si on regarde les grandes chaînes publiques, on n'a pas l'impression qu'ils soient acharnés contre le gouvernement, quoi.
Ouais, c'est clair. Et il y a une gestion aussi qui est discutable de la Hongrie, notamment ces dernières années, je dirais à peu près depuis le Covid, ou du moins depuis la guerre en Ukraine.
Il a bloqué les prix, il a monté le déficit budgétaire, il a bloqué les prix d'énergie.
Ouais,
il a fait toute une série de mesures qui étaient bêtement, politique, quoi. Si vous bloquez les prix de l'énergie et que vous faites donner la planche à billets pour payer la différence, vous créez de l'inflation, c'est ce qu'il a eu. Et ce qui est étonnant, c'est que à peu près partout, les gens qui ont eu des périodes inflationnistes perdent le pouvoir.
Ouais.
C'est-à-dire que l'inflation, c'est très très mal supporté. Hein.
Bah oui, il faut dire que l'inflation, c'est quand même une espèce de taxe déguisée.
Bah c'est une taxe sur les pauvres.
Et qu'en plus de ça, voilà, ça touche principalement les pauvres, puisque les pauvres, eux, ont des flux, ils ne détiennent pas beaucoup d'actifs, et donc ils subissent beaucoup l'inflation sur leurs dépenses, alors que les personnes plus fortunées ont des actifs, donc certes, ils payent des trucs plus chers, sauf que c'est largement compensé par la hausse de prix, en tout cas de prix de leurs actifs. Donc c'est effectivement une taxe déguisée, en plus de ça, sur.
Et la hausse des prix des actifs rend l'achat des actifs quasiment impossible par les pauvres.
Ouais.
Donc ça fait vraiment une séparation dans les deux pays, et dans le pays, entre ceux qui ont des actifs et ceux qui n'en ont pas.
C'est clair.
Et, comme ceux qui ont des actifs sont souvent des inactifs, les retraités par exemple, ça fait une espèce de casse qui se passe dans le pays,
ouais,
entre ceux qui sont riches parce qu'ils travaillent, et ceux qui sont riches sans travailler, et ceux qui sont pauvres en travaillant. Quoi.
Ouais.
Ça, c'est pas une bonne idée, ça.
Oui, c'est clair. L'inflation forcément n'est jamais une bonne chose, à la limite sur le court terme ça peut aller, mais là on a eu quand même des inflations depuis le Covid, l'année 2021 c'est quand même 17% d'inflation,
ouais,
en Hongrie,
c'est
quand même pas mal, c'est la plus grosse la plus grosse inflation de la zone européenne à ce moment là et derrière c'est aussi le genre de truc qui va pousser le nouveau Premier ministre à vouloir rejoindre l'eurozone. Ça aussi, est-ce que c'est
Oui,
pas,
parce
est-ce que c'est pas
que
une
bah, c'est
bêtise quand
d'une
même?
imbécilité, parce que s'il imagine que ce qui fait s'il rejoint l'eurozone, c'est que bah, il va mettre en faillite toutes les entreprises qui continuent à avoir de l'inflation. Donc ce qui se passera, c'est qu'il aura des prix bas, peut-être, mais que sa balance commerciale va se détériorer de façon phénoménale, quoi. Voilà. Donc, vous masquez l'inflation par la disparition des sociétés qui ne peuvent plus augmenter leurs prix, quoi.
Ouais, c'est clair. Et
C'est
puis,
idiot.
à côté, il y a quand même un exemple d'une assez bonne réussite. Et d'ailleurs, c'est peut-être de ce genre de comparaison aussi que Orban a souffert. C'est par exemple avec la
La
Pologne. La
Pologne qui
Pologne
marche
est un
bien.
pays qui s'en sort très bien, qui n'est pas d'ailleurs dans la zone
Dans
euro
l'eau.
et qui a plutôt une bonne industrie, une bonne croissance. Pareil, son marché actions a fait une très très bonne croissance l'année précédente. Donc, ça aussi, peut-être
Bah oui,
qu'il
la
faut
Pologne,
plus
c'est
s'inspirer de ce pays.
ce que disait Milton Friedman quand on lui demandait d'où venait l'inflation, où elle est créée, il disait c'est toujours Washington. C'est-à-dire que dans un pays où le poids de l'État augmente, où les subventions augmentent, où on paye des gens, on n'a rien foutu, etc., il y a automatiquement de l'inflation, quoi. C'est-à-dire que l'inflation, c'est vraiment créé par un pouvoir étatique qui ne veut pas augmenter les impôts.
C'est Friedman qui disait l'inflation est partout, tout le temps un phénomène
Le
monétaire.
monétaire, c'est toujours pareil.
Alors par contre, voilà, j'ai vu beaucoup d'observateurs se réjouir de cette
Parce
défaite
qu'ils
en fait de
détestaient
Viktor
Orban.
Orban.
Donc si Orban tombe, ils sont
Oui,
contents.
voilà,
Ils savent
mais
pas. Ils auraient Hitler en face, ils auraient félicité l'arrivée d'Hitler.
mais justement.
C'est presque ça, quoi. C'est complètement idiot de leur part. Mais de toute façon, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient intelligents. Hein.
Oui, mais alors justement, voilà, quand on voit, bon, il essaye enfin, il veut se rapprocher de l'Union européenne et sans doute de l'OTAN. Enfin, quand on voit quand même ce qu'il dit sur l'immigration et sur l'Ukraine, on n'a pas l'impression que ce soit un grand pas en avant non plus pour les hommes de Davos, quoi.
Ce que les gens oublient toujours, c'est que la Hongrie, qu'on le veuille ou non, a été d'abord un très très grand pays au XIIIe, XIVe, XVe siècle, qui a défendu l'Europe, qui a été un peu, avec la Pologne d'ailleurs, qui a été le bouclier contre les invasions mongoles, contre les Turcs, tout ça, c'est eux qui étaient là. Et que, ayant souvent choisi le mauvais camp dans les guerres, au 19e et au 20e, ils se sont retrouvés avec un pays qui fait presque le tiers de ce qu'il était autrefois, quoi. Donc il y a aussi un paquet d'Hongrois qui sont en Ukraine, qui sont en Roumanie, qui sont donc. C'est un pays qui est. Quand il y avait l'Autriche-Hongrie, c'était quand même une part importante d'un empire. Et
C'était énorme.
c'est pas un petit. Et aujourd'hui, ça se retrouve comme une espèce de Suisse un peu là-bas au fond. Personne ne sait ce qu'ils font. Ils ont une langue bizarre. Donc je crois que il y a une erreur qui est faite par beaucoup de commentateurs de penser que la Hongrie est un petit pays. Vous savez, ça a été un très grand pays.
Et alors pour revenir sur l'immigration, donc ce Peter Maguire a une ligne vraiment ferme. Donc déjà les deux hommes, que ce soit Maguire ou Orban, partagent le maintien de la clôture frontalière, le refus des quotas européens de relocalisation,
Bien sûr.
l'opposition aussi au pacte européen sur la migration et l'asile. Maguire comme Orban prône une politique de tolérance zéro envers l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains. Cependant, Maguire critique vivement le programme de travailleurs invités, les guest workers mis en place par Orban depuis 2022, qui a permis l'arrivée de dizaines de milliers de travailleurs non européens, principalement
Ça aussi, c'est
asiatiques.
une des raisons pour lesquelles il a été battu.
Bien sûr. Mais après, on va voir si c'est vraiment faisable de pouvoir s'en passer. Mais pour pallier des pénuries de main-d'œuvre, il promet donc d'y mettre fin sans exception pour rapatrier, ses travailleurs, de stopper tout nouveau recrutement. Il accuse le gouvernement sortant d'avoir sacrifié la cohésion nationale et les salaires hongrois au profit d'intérêts économiques à court terme. Sur ce point précis, Maguire se positionne donc vraiment encore plus
Ce qu'il
radicalement
dit,
que
c'est qu'on a fait arriver des gens en Hongrie de l'extérieur pour éviter d'avoir à monter les salaires, quoi.
Oui, c'est ça. C'est pression à la baisse sur les
Tout le
salaires,
salaire.
ce qui est pas faux en soi, hein, sur plein
Mais enfin, si
de
j'ose dire,
métiers.
Vous regardez les salaires les plus hauts du monde, c'est en Suisse, ça les empêche pas de bien marcher, quoi. L'idée qu'on va faire rentrer des gens incompétents pour empêcher les salaires de monter a toujours été une connerie, quoi.
C'est clair. Je pense que un des domaines dans lequel c'est le plus vrai, c'est sans doute le bâtiment. Mmh. Le bâtiment, effectivement, on aime bien avoir des gens qui viennent du monde entier, qui sont payés vraiment une misère.
Mais à quoi ça sert d'avoir un bâtiment qui est, où vous importez plein de gens si vous avez un taux de natalité de 1,4, quoi. C'est complètement contradictoire.
C'est clair. Mais là-dessus, est-ce que c'est vraiment faisable aujourd'hui? Parce que c'est pareil, Giorgia Meloni, elle a eu un programme qui était assez anti-immigration. Elle a réussi à faire d'ailleurs plein de choses. Hein, notamment...
Elle les a envoyés tous ces gars. Les types, maintenant, ils arrivent en Italie, ils passent tout de suite en France. Ils ne restaient plus en Italie.
Alors déjà, il y a ça. Elle a vraiment réussi à réduire drastiquement tout ce qui est immigration illégale. En revanche, voilà, on a ces pays-là changent en quelque sorte d'immigration. C'est-à-dire qu'on avait une immigration autrefois qui était plutôt issue d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et là, on a certaines immigrations qui sont plus orientées sur le travail, venant notamment d'Asie du Sud-Est, donc c'est vietnamien, philippin, etc. Alors c'est des gens qui travaillent très bien, il y a pas de problème, mais est-ce que c'est une bonne idée d'en faire venir des caisses et des caisses pour travailler dans le pays?
Je sais pas, mais si vous voulez, je suis bien incapable de répondre à cette question, mais je pourrais dire ce que disait Jacques Ellul, c'est lui. Mmh. Qui était quand même un homme de gauche, président, autant qu'on pouvait l'être. Président de la revue Esprit, la revue protestante, professeur de sciences politiques, qui a fait des études remarquables et tout. Il a laissé un papier posthume sur l'immigration là-dessus, et dit que lui, fondamentalement, il est favorable à l'immigration, parce qu'il trouve que c'est très bien. Mais il ne veut pas d'immigration musulmane parce que c'est complètement incompatible avec nos valeurs. Donc il dit, vous pouvez faire venir des Philippins tant que vous en voulez, des Vietnamiens tant que vous en voulez, parce que ça ne pose aucun problème. Mais il dit, il y a un problème fondamental. Alors je ne suis pas compétent pour dire s'il avait raison ou tort, mais qu'un homme de gauche comme Ellul dit ça, je trouve ça intéressant, parce qu'il dit, je suis favorable à l'immigration, mais je ne suis pas favorable à cette immigration, parce qu'elle semble avoir du mal à s'intégrer chez nous. Donc bah, s'il faut venir des Philippins, des Vietnamiens, ben non. Nous, on en a plein du côté de la porte d'Italie, par là-bas, des Vietnamiens et tout, des Chinois, il y a tout ce qu'il faut. Bah, apparemment, au bout d'un an ou d'une génération, ils rentrent à Polytechnique et puis tout va bien. Quoi.
Oui, c'est
vrai. Ce que je veux dire, ça là, c'est on pose l'immigration comme si tous les immigrants étaient pareils. Mmh. Or, il me semble qu'il y a immigrants et immigrants. Quoi. Mmh. Il y a immigrants qui s'assimilent et immigrants qui s'assimilent pas après. Et il me semble qu'on pourrait commencer par dire bon, quels sont les immigrants qui s'assimilent, et puis on laisse plutôt rentrer ceux-là, je ne sais pas. Ça me paraît du simple bon sens. Mais...
Oui, et puis après, il y a plein d'autres paramètres. Évidemment, il y a le nombre. 20 000, ce n'est pas 200 000, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a aussi, est-ce que c'est une immigration qui est là pour travailler quelques années, gagner un peu de pognon, et puis faire autre chose après? Ou est-ce que c'est s'installer définitivement, et ce qui, à long terme, peut changer l'identité du pays? Et là, sur un plan identitaire, je peux comprendre qu'il y ait davantage de réticence. Après, si c'est un flux continu qui vient, qui repart, ça, on va dire, ça me dérange.
Il y a ça, mais... Donc il y a vraiment, si vous voulez, parler d'immigration, si j'ose dire, avec un grand I, comme ça, immigration, ça me paraît un peu saut, parce que... Ils sont pas tous pareils, quoi.
Oui, c'est clair. Il y a plusieurs immigrations.
Il y a plusieurs immigrations, il y a plusieurs civilisations.
Il y a plusieurs motifs aussi, évidemment. Il y a l'immigration, l'immigration familiale, le regroupement familial, et puis il y a l'immigration de travail. C'est pas la même chose non plus pour une société d'avoir à assumer des prestations sociales plutôt que de dire, bah, là, on est dans une stratégie gagnant-gagnant. Mmh. Je suis content de te donner du travail et t'es content d'en avoir. C'est sûr, c'est pas la même chose. Et après, je voudrais avoir une réflexion globale, finalement, sur la trajectoire politique, s'il y en a une, de l'Europe de façon générale, parce qu'évidemment, beaucoup d'observateurs, notamment de la gauche et du centre, voient d'un très bon œil cette défaite de Viktor Orban et se disent... Peut-être finalement, c'est le début de la fin de cette droitisation, de cette radicalisation de l'Europe sur le plan politique, d'autant que Orban était un symbole depuis plus d'une dizaine d'années.
Bah, c'était à peu près le seul à résister. Enfin, si, il y a les Polonais. Hein. Les Polonais, ils ont un système qui est complètement bloqué, où ils ont un premier ministre qui est européen, un président de la République qui est contre, et le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a le pouvoir de veto, donc grosso modo, ben, il ne peut pas se passer grand-chose en Pologne.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Et donc, oui, si vous voulez, c'est une question importante, mais... moi, je tire comme conclusion, si vous voulez, quelqu'un est resté 16 ans au pouvoir, c'est trop.
Ouais.
Et c'est à peu près la seule conclusion que je peux trouver, parce que... Au bout de 16 ans, vous avez plus beaucoup d'idées, quoi.
Oui, et puis
ça reste au pouvoir, quoi.
Ouais, ça montre aussi une incapacité à se trouver un propre successeur.
Logiquement, ce gars-là aurait dû être le successeur d'Orban.
Oui.
Si Orban était intelligent, il aurait passé les commandes, ouais, il y a 2-3 ans. Mais Orban, comme beaucoup de ces gens-là, au bout de 16 ans, il s'imagine que l'Hongrie peut pas survivre sans lui, mais. Tous ces gens qui s'imaginent indispensables, c'est tuant, quoi.
Oui.
Et alors, il est vrai qu'il a incarné la résistance à l'Europe, mais ça veut pas dire que il a perdu, mais il a pas perdu à cause de ça. Il a perdu probablement parce que l'autre l'incarnait presque aussi bien. Et puis, peut-être Orban était-il devenu caricatural dans son opposition à l'Europe, quoi.
Oui.
Les gens se disaient, bon, ben, quoi que l'Europe propose, il sera contre. Alors là, ils vont en mettre un qui va voir. Peut-être il va être tout aussi contre, mais peut-être un plus intelligemment, j'en sais rien, moi.
Oui. Donc, oui, moi, c'est l'histoire de dire. Il y a aussi une façon de faire les choses de façon plus ou moins intelligente.
Voilà. Donc, si vous voulez, Orban, bah, le problème qui me gêne beaucoup, c'est que vous regardez les hommes politiques français, etc., qu'on voit évoluer. Au début, ils ont, mettons, une certaine fraîcheur, et puis vous écoutez, vous dites, tiens, c'est pas bête, c'est intéressant et tout. Puis au bout d'un certain temps, vous voyez des gens, ils deviennent quasiment les caricatures d'eux-mêmes. Vous regardez un type comme Copé ou Bayrou, quand il est sorti au début, Bayrou, il y a 30 ou 40 ans, vous dites, tiens, il arrive du Béarn, il dit pas que des bêtises, il est intéressant. Puis petit à petit, ils se diluent dans leur caricature. Et je l'ai vu avec les... Donc là, à la fin, Orban, il était presque une caricature de ce qu'il était 15 ans avant, quoi.
Oui.
Ayant les défauts plus forts que ce que... Et puis les qualités, on les voyait plus tellement, mais on voyait, oui, que les défauts étaient devenus un petit peu... Et donc on se dit, bon, ben, c'est pour ça qu'on fait des élections, c'est pour virer ceux qui sont là depuis trop longtemps, quoi.
Oui, oui. Et puis je trouve que ce qu'il a incarné aujourd'hui, qui était une espèce de résistance très, très ponctuelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un seul pays, aujourd'hui, je trouve que les idées de Viktor Orban, et qui sont partagées par beaucoup de gens dans différentes droites nationales en Europe, voire même de plus en plus dans des droites libérales de gouvernement classiques, je crois qu'il y a une vision qui est comme ça en train de contaminer certaines institutions européennes de l'intérieur, et selon moi c'est plutôt une bonne chose. Et si on regarde encore une fois par rapport à l'immigration, la façon qu'ont même les élites européennes, c'est-à-dire c'est dire à quel point
on a vu apparaître, si vous voulez, des révoltes contre l'immigration en Suède, au Danemark, partout. Et donc les gens, bon, il y a d'autres façons de traiter l'immigration, donc en quelque sorte, il avait gagné un certain nombre de batailles, justement sur l'immigration, Mais la vraie question essentielle qui se pose toujours, c'est la supériorité du droit européen sur les droits nationaux, quoi. C'est ça la question essentielle, c'est celle.
Alors déjà, il y a ça. Et après, je trouve aussi, bon, encore une fois, il faut distinguer le texte des faits, et les faits ne sont pas encore tout à fait là, mais on vient d'adopter récemment un texte au Parlement européen, ce qui ne veut pas dire qu'il est définitivement adopté, il faut encore que ce soit accepté par la Commission et le Conseil, et ensuite que ce soit véritablement mis en place, mais on a adopté un texte qui est quand même assez restrictif sur l'immigration. Alors c'est le Parlement européen qui a adopté par 389 voix contre 206 et avec 32 abstentions sa position de négociation sur le règlement relatif au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union. Donc c'est déjà un texte qui a été initialement proposé par la Commission européenne en mars 2025 et qui a été un peu repris à la volée, notamment par François-Xavier Bellamy, qui a négocié avec tous les partis parti de droite. Il n'a pas fait de, il a pas fait de, comment dire, de chichi là-dessus. Et en gros, le cheminement, c'est que après une première proposition donc par la Commission, le Conseil a adopté une orientation générale fin 2025. La Commission, donc menée en partie par François-Xavier Bellamy, a ensuite mené des négociations internes, aboutissant à un compromis alternatif soutenu par le Parti populaire européen et d'autres partis beaucoup plus à droite. Et donc le vote en assemblée plénière demandé par plusieurs groupes d'opposition a ouvert la voie au trilogue, c'est-à-dire aux négociations tripartites entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et en gros, ça marque un net durcissement de la politique de retour européenne. Notamment, il introduit les hubs de retour, c'est-à-dire les centres de détention et de transit situés hors de l'Union, financés ou soutenus par l'Union européenne, où peuvent être transférées les personnes ne faisant pas l'objet d'une décision, faisant pardon l'objet d'une décision de retour. Alors ça, déjà, c'est une assez grosse avancée, puisque notre gros problème quand on veut faire en sorte
qu'on sait pas les envoyer,
voilà, parce qu'on a besoin notamment des laissez-passer consulaires. Donc par exemple, on le sait, en France, dès qu'on a des problèmes avec des immigrés illégaux venant par exemple d'Algérie, l'Algérie nous fournit très peu de laissez-passer consulaires, et donc on a beaucoup de mal à les renvoyer dans leur propre pays. Donc l'idée, c'est, en gros, vous avez un contrat avec un pays tiers. C'était le Royaume-Uni qui avait commencé à faire ça il y a quelques années avec le Rwanda. L'idée, c'est que vous filez des millions au Rwanda, et le Rwanda, lui, accepte de s'occuper de vos immigrés illégaux.
Mais vous faites des camps de concentration.
Alors, vous faites un peu des camps de concentration. Sur le plan humanitaire, je peux comprendre qu'il y ait certaines critiques. Après, ça fait aussi que c'est moins intéressant pour quelqu'un d'immigrer illégalement dans le pays, parce qu'on se dit, bah, y a un risque que je termine dans un camp au Rwanda. Mmh. Ce qui n'était pas un risque autrefois.
Oui, mais alors, tout ça, je trouve ça tout à fait passionnant, mais je peux vous faire un pari, hein, sans risquer de me tromper beaucoup. C'est que la Commission et le Conseil vont jamais avoir le temps de discuter de tout ça. Donc c'est un machin qui va rester voté, mais qui n'aura jamais aucun degré d'application.
Bah écoutez, vous avez peut-être raison.
C'est ce qui va se passer, c'est évident. Puisque, si vous voulez, comme les décisions du Parlement européen ne sont pas exécutoires, sauf si c'est accepté par les autres, mais les autres, ça ne sera jamais l'ordre du jour, on n'en parlera jamais. Mais on aura fait un gros effort. Donc, si vous voulez, François-Xavier Bellamy dira, regardez, j'ai fait ce qu'il fallait, mais ça ne sera jamais exécuté. Donc, le problème, c'est que tous les textes objectifs qui iraient contre cette espèce de gentillesse vis-à-vis du reste du monde qui est à l'origine de tous nos problèmes, ne passent jamais. Donc, on les vote, mais les décrets d'application ne sont jamais sortis. Donc, c'est comme... Mais... Vous pacifiez l'opinion publique.
Oui, alors ça, c'est vrai. Oui,
Donc tout ça, c'est des paroles verbales, ça veut rien dire, quoi.
Oui.
J'en crois pas un mot, tout ça, ça se passera jamais. La seule chose, c'est que, comme c'est du ressort de chaque État, par exemple, le Danemark a décidé que si vous parliez pas le danois au bout de 3 ans, ils vous renvoyaient. Mais alors, ils vous renvoyaient où? Ils vous renvoyaient, je sais pas où ils vous renvoient, mais en vrai, ils vous quittaient le Danemark, quoi.
Oui.
Alors j'imagine qu'ils viendront en France. Youpi. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez cette espèce de groupe qui est là, qui est bâti un mouvement qui a une inertie énorme, qui avance. Et donc vous dites, je vais faire un texte pour l'arrêter. Et puis, le texte n'est jamais appliqué, jamais voté. Regardez par exemple en France, je crois qu'on a 80 millions pour accompagner les EQTF à la frontière, et on donne 800 millions à... SOS Méditerranée pour aller chercher les gars en Méditerranée. Donc vous avez ce qui est interdit.
Ouais.
Normalement, dans un pays normal, SOS Méditerranée devrait fermer. Vous n'allez pas aller chercher les gars pour les ramener en France, quoi. Ils touchent 800 millions de subventions de l'État.
Ouais.
Donc dans un État, on vous donne 80 millions pour aller raccompagner les gars, que les autres ont été cherchés avec 800 millions. C'est se foutre du monde. Mais ça, j'appelle ça le truc de Bellamy, c'est du foutage de gueule.
Mais vous pensez que ça va jamais
ça va jamais se passer? Vous voulez un pari? Vous voulez un pari?
Je ne veux pas prendre de pari là-dessus.
Ça va jamais être à l'ordre du jour de la Commission ni du Conseil.
Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment tenir
ça fait 50 ans qu'ils le font,
la Commission, parce que là il y a quand même une pression.
Il y a un texte qui a été voté, mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que ça leur foute? La Commission est à la fois pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, elle contrôle tout. Donc c'est le seul instrument au monde qui n'est la Commission européenne où il n'y ait aucune séparation des pouvoirs. Il n'y en a pas. Donc le Parlement européen n'est pas maître de son ordre du jour.
Oui, ça c'est vrai.
Donc il ne se passe rien. C'est une manœuvre de relations publiques. D'ailleurs, ça a peut-être amené des gens en Hongrie à voter contre Orban.
Oui.
En disant, bah oui, la Commission européenne commence à voir la lumière. Rien du tout.
J'espère que vous avez tort.
On se revoit, le jour sera appliqué.
Oui. Bon, à mon avis, ce ne sera pas la semaine prochaine. Hein. Parce que le temps que ça passe, ce ne sera pas avant 2027, ça c'est clair. Et à mon avis, pas dans la première moitié de l'année.
Mais il faut que ça passe. Et puis ça, ils ont déjà toujours chargé la Commission européenne. Il faut s'occuper des bouchons. Le Conseil européen, il faut que tout le monde soit là.
Et après, il faut que ce soit transposé en droit interne de chaque pays.
Alors là, ça va être encore... En France,
en France, on va bien prendre notre temps.
Non, mais c'est pas ça. Le Conseil constitutionnel va dire que c'est attentatoire aux droits des gens, donc on peut pas l'appliquer.
Alors ça, il va faire peut-être valoir la supériorité du droit français sur le droit européen à cet épisode particulier.
De la Constitution française.
La Constitution française, oui, de toute façon.
C'est des machines à enfumer les populations, ça.
Ouais. Mais je trouve quand même que... Alors peut-être qu'au niveau de la Commission, ça n'y fait rien, ça bouge pas, je ne sais pas. Mais au niveau du Conseil, qui est constitué des différentes figures élues de chaque pays membre, là, je vois par exemple...
Non, c'est les pouvoirs exécutifs, le Conseil.
Oui, c'est les pouvoirs exécutifs.
C'est les pouvoirs exécutifs qui délèguent des gars.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire que, par exemple...
Vous savez qu'il n'y a pas de... au Conseil européen, quand ils se réunissent, etc., personne ne prend des notes sur ce qui s'est dit.
Donc,
vous ne pouvez pas savoir qui a dit quoi après.
Oui.
On a la consultation minute.
Alors ça aussi, il y a une certaine opacité, par exemple.
Il n'y a pas une certaine opacité, il y a l'opacité certaine, oui. C'est-à-dire que le type, il va voter au Parlement, M. Bellamy, mettons, il va voter au Parlement pour dire que c'est un scandale, et puis ensuite il sera au Conseil, et il votera le contraire, vous ne le saurez pas.
Peut-être. Ça, pareil, c'est au moment du vote des membres de la Commission.
Mais
au Parlement européen,
le
vote est...
D'accord, la Commission, bon, vous savez à peu près ce qui se passe, mais à l'intérieur du Conseil, vous n'avez strictement aucune idée.
Donc ça, effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez curieux au moment de la réélection d'Ursula von der Leyen à la Commission.
Tout le monde était contre.
C'est que tout le monde a fait campagne contre, à peu près à part le parti centriste, Macron.
À part les démocrates chrétiens allemands.
Voilà, mais sinon... même François-Xavier Bellamy pour LR a voté plutôt pour, enfin, a fait campagne contre Ursula von der Leyen, mais derrière on ne sait pas du tout ce qu'il a voté. Si ça se trouve, il a voté pour elle.
Oui, parce qu'elle a eu une majorité assez écrasante.
Elle a eu une forte majorité, donc il y en a forcément qui ont fait campagne contre elle et qui ont quand même voté pour elle à la fin. C'est une certitude.
On se demande pourquoi, quelles ont été les pressions, comment ils ont reçu de M. Soros. C'est des questions importantes, ça, mais que vous ne connaîtrez jamais.
Ouais.
Et on n'a pas on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec les fameux vaccins qui ont été achetés sans aucune consultation ni aucun appel d'offres, et combien Mme von der Leyen a touché. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle a des procès aux fesses en Allemagne parce qu'elle avait fait des impropriétés qui auraient dû l'amener en prison, et du coup on l'a nommée à l'Europe parce que sans ça elle aurait été en prison.
C'est sûr qu'il y a une conception du droit qui est très particulière dans
Il y a ce monde que j'ai souvent décrit, ce monde du sommet qui n'est pas censé être sujet au même droit que vous et moi.
Oui, c'est clair. Et qui même fait son propre droit, puisque par moments on raisonne en dehors du droit.
C'est-à-dire que maintenant, il y a le droit qui s'applique à vous et à moi, et il y a le droit qui ne s'applique pas à eux.
Oui.
Eux, ils ont le droit de voler comme au coin du bois. D'avoir leur mari qui travaille dans une société qui dépend, qui va recevoir des contrats, personne ne dit rien. Quoi.
Oui, c'est sûr que par rapport, c'est très curieux, mais par rapport aux standards démocratiques de chaque État membre de l'Union européenne,
pourquoi croyez-vous qu'ils veulent tous être à l'Europe? Parce qu'ils aiment la pauvreté?
Non, ça, je crois pas.
Non, non, c'est pas des.
C'est mieux payé, c'est beaucoup plus opaque, donc c'est quand même beaucoup plus confortable.
Oui. Et puis, de temps en temps, on trouve dans leur tiroir, comme pour certains Grecs, là, des centaines de milliers d'euros en billets, ils savent pas comment ils sont arrivés là par hasard, c'était des pourboires qu'ils ont eu quand ils étaient au café, enfin, je sais pas.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il y a un nombre de crimes qui sont commis à l'Europe, de droit commun, de conflits d'intérêts, etc., qui ne sont jamais traités, ça dépasse l'entendement.
Ouais. Ou qui ne sont pas considérés comme du crime. Parce que...
si, ils sont considérés dans tous les pays, mais qui ne sont jamais poursuivis.
Oui, mais je veux dire, par exemple, si on prend comme exemple le lobbying est légal au sein de la Commission, mais par exemple, c'est illégal en France, en tout cas en théorie.
En théorie, vous rigolez, oui, bien sûr. Mais le lobbying, si vous voulez, c'est illégal Si l'élu touche du pognon.
Oui, s'il touche du pognon, oui. On a le droit d'aller voir des élus pour leur, pour les sensibiliser sur certains problèmes, voire pour aider à rédiger
les textes.
Mais
par contre, payer, je sais pas, lui payer des vacances ou.
Oui. Payer un vote, ça c'est illégal. Ça, c'est,
payer un
c'est
vote, c'est illégal. Mais, enfin, c'est...
mais au Parlement européen, ça se fait, ou à la Commission. Mm-hmm. Donc, par exemple,
je crois que sur les juges européens qui sont nommés, sur les candidats au Parlement, il y en a un bon tiers qui sont soutenus par les associations de Soros, qui sont élus. Avec,
oui, il y a déjà eu des scandales comme ça il y a quelques années.
Où la quasi-totalité des juges avaient été nommés d'une façon ou d'une autre par des personnalités liées à Soros. Donc on sent qu'on est dans un monde parfaitement clair et parfaitement...
transparent même.
Transparent, oui,
c'est complètement...
Où nos intérêts sont pris en compte avant
on
tout.
On voit absolument tout, effectivement. Mais voilà, pour revenir un petit peu au thème du jour, je trouve qu'il se passe quand même des choses. Par exemple, si on prend la façon dont l'immigration était vue par cette élite européenne il y a 10 ans, on a Angela Merkel à ce moment-là qui accepte de prendre 800 000 Syriens en Allemagne. Donc sur l'année 2015-2016, ça fait à peu près 1 million. Et aujourd'hui, on a Friedrich Merz, qui est donc le chancelier allemand aujourd'hui, qui est issu du même parti qu'Angela Merkel, mais qui a une position presque inverse, puisque lui, justement, il veut faire un accord avec le nouveau président de la Syrie pour dire 80% des Syriens qui sont présents en Allemagne et qui sont arrivés lors de cette vague d'asile doivent repartir désormais en Syrie, puisque la Syrie n'est plus un pays en guerre. Il y a quand même des positions comme ça qui changent drastiquement par rapport à il y a 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera mis en place, je ne sais pas encore, mais bon.
Oui, non. Mais si vous voulez, il faut toujours faire la différence entre ce qu'on dit pour...
pour canaliser.
La différence entre pour canaliser la colère des gens, la différence, si vous voulez, c'est que vous avez l'AFD en Allemagne qui était en train d'arriver au pouvoir, alors qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas.
Oui.
Donc ça, c'est des discours qui sont faits pour l'AFD, mais je suis bien certain que si le Syrien a une petite amie allemande, s'il a fait un enfant à une Allemande, etc., il pourra rester.
Oui,
donc,
ça,
donc, c'est... Donc vous avez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout le monde accuse les partis de droite d'être populistes, et donc vous avez les partis du centre et de la gauche qui essayent de calmer le populisme par des mots, mais des déclarations, des législations qui ne sont jamais...
Bien sûr.
Mais la réalité, c'est que le nombre d'immigrés continuent à augmenter, que nos déficits budgétaires continuent à exploser, que... Donc, ils pensent que les mots vont... Les mots, si j'ose dire, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que les mots vont calmer les... vont régler les mots. Oui, mais M-A-U-X, en quelque sorte. Donc, non, la réalité, si vous voulez, c'est gouverner, c'est qu'il faut traiter les vrais mots par autre chose que par des mots, quoi.
Oui.
Je m'enlève, les gens vont dire, mais ce qu'il raconte, il est gâté. Mais pas du tout. Les mots M-A-U-X doivent être réglés par autre chose que par les mots M-O-T.
Oui, oui.
Et là, ils pensent que les mots suffisent. Monsieur Xavier Bellamy, en étant un bon type normal supplétre, il pense que les mots M-O-T, ça suffit.
Non, mais c'est clair qu'il y a un monde entre les mots et les actes.
Voilà.
Après, parfois, il arrive que ce soit véritablement pris en considération. Si on prend encore une fois l'exemple du Danemark, on a des sociodémocrates au pouvoir qui ont vu justement la montée de la droite radicale et qui se sont dit « Ouh là là, ça c'est pas possible. Que veulent les gens ?» Bon, bah visiblement, ils veulent plus d'immigration. Ok, d'accord,
même,
on avait commencé
chose
à faire
Suède.
Ça. Voilà. En Suède,
c'est
exactement
des gens
ce qui
dans
s'est passé.
Il y a, sont des pays relativement petits dans lesquels il y a une adéquation assez forte entre les votants et ceux qui les représentent, parce qu'en France, personne ne sait qui sont des élus européens, et puis tout le monde s'en fout.
Oui.
Tout le monde s'en fout. Les élus, si vous voulez, c'est ce que j'ai vu une fois il y a quelques années, ce que je raconte toujours, mais il y avait un article qui avait été publié par les Échos de l'endroit où les élus passaient leurs vacances. Ben, aujourd'hui, si vous voulez, ils passent leurs vacances à Deauville, et puis l'île de Ré, puis Arcachon, Biarritz. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la Côte d'Azur, comme ça. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont passer l'été à Megève ou à Méribel, là-haut. Mm-hmm. Mais autrefois, tous les élus passaient leurs vacances dans leur circonscription dont ils étaient issus.
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport entre les élus et les populations locales. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui plus aucune adéquation. Les types savent, ils sont élus d'une circonscription, ils sont contre foot, ils n'y vont jamais. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde où vous avez les élus là-haut qui sont désignés plus qu'élus. Toi, tu te présenteras là, puis tu seras élu parce que le parti fait 35% des voix. Donc, vous avez les élus là-haut et puis les populations. Et les élus, dans le fond, les populations, c'est emmerdant quand même, quoi. Qui va aller passer des vacances?
Oui, toi, pas, c'est clair que je pense qu'au moins, deux tiers des députés aujourd'hui sont complètement parachutés, au point que c'est même plus véritablement un problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, de toute façon, ils n'ont même pas vraiment à se soucier des problématiques de leurs électeurs, c'est-à-dire de leur circonscription, puisque de toute façon, eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose, puisqu'on n'a plus le cumul des mandats.
Non.
Et leur mandat et est
ils
un...
Ont, ils n'ont
un...
accès à aucun pognon, c'est-à-dire qu'ils disent si vous voulez, il va falloir voter. Mettons qu'il y ait une usine de petits beurre quelque part qui va fermer. Alors, ça va beaucoup intéresser. Il va y avoir des tas de subventions pour l'usine de petits beurre, mais le type, il ne sait pas ce que font les gens chez eux. Autrefois, c'était le docteur local. À côté de moi, chez moi à Avignon, il y a une de ces grosses petites villes qui est là. Le type, il était kinésithérapeute dans la ville, et il était député-maire. Hein. Mm-hmm. On lui a demandé de choisir entre député et maire, il est resté maire parce qu'il fait des trucs, alors qu'il est que député, il servait strictement à rien à sa ville, il n'avait plus aucun rapport avec sa ville, et donc le bon kinési, qui est venu me soigner une fois parce que je m'étais cassé quelque chose, il est parfaitement aimable, et il cherche à rendre service. Donc vous avez encore des élus de terrain comme les maires, mais ces gars-là, le député du coin, mais personne ne sait qui c'est.
Ouais.
Donc vous avez, c'est une autre rupture de la démocratie, c'est le lien presque charnel qui existait entre une terre et son député.
Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, il y en a plus vraiment. En plus de ça, le député a un mandat qui est national, c'est-à-dire que chaque député, même s'ils ont une circonscription...
On va voir, vous avez le chef de parti qui vient vous voir et qui dit « tu vas voter ce texte », il dit « mais c'est pas du tout, je suis contre et tout, oui, on s'en fout que tu sois contre, tu le votes, sinon la prochaine fois t'es pas là, quoi ». C'est-à-dire que s'il avait été le député maire, il pourrait dire « je n'ai rien à foutre d'être pas là » parce que c'est pas vous qui décidez qui est élu. Parce que si vous êtes le député maire, vous êtes les gens du coin qui vous élisent là, c'est le chef du parti.
Vous estimez avoir des comptes à rendre par rapport à vos électeurs littéralement?
Non, ils n'ont aucun compte à rendre. Et c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle européenne, où on est gouverné par des hors-sols. Et donc ils vont faire des textes comme celui-là, là, de votre ami... comment il s'appelle, le petit...
François-Xavier Bellamy.
Oui, François-Xavier Bellamy, là. C'est du pipeau, quoi, c'est tout. C'est du pipeau. Et la satisfaction des gens d'Orban, de la chute d'Orban, comme cet animal de Macron qui s'est félicité de la chute d'Orban, c'est parce qu'enfin, ils vont pouvoir s'intéresser aux trucs importants et non plus à essayer de calmer la colère des petites gens en dessous, quoi. Parce qu'ils se disent, bon, M. Orban est parti, ça fait un emmerdeur de moins, quoi. On va continuer à pouvoir notre travail de destruction des nations, de destruction d'arrivée de l'ordre d'une Europe fédérale et tout. Donc, ils sont tout contents.
Donc, ça veut dire que c'est quand même plutôt une mauvaise chose.
Orban, il était plus efficace.
Ouais.
Mais si j'ose dire, ils avaient essayé de tuer le gars de Slovaquie, là, ils l'ont raté, mais qui était assez proche d'Orban. Il y aura celui-là, il y aura peut-être le Polonais, il y aura peut-être... Et l'histoire de faire rentrer l'Ukraine, c'est une vaste connerie, parce que vous ne pouvez pas faire rentrer un pays qui est en guerre.
Mais pourquoi
ils veulent faire rentrer l'Ukraine? Parce que c'est là qu'on touche tout le pognon. Si vous voulez vraiment être corrompu, il faut avoir des affaires en Ukraine, quoi.
Ouais, mais ça, je sais pas s'ils y arriveront. Déjà, ça fait 4 ans qu'on en parle. Pour l'instant, on est toujours.
Mais vous pouvez pas dans les traités européens un pays en guerre.
Oui, mais après, maintenant, je veux dire les traités.
Oui, les traités, c'est des chiffons de papier. Qui a dit ça déjà?
Je sais pas.
Ah ben c'était Hitler, pardon. Non, mais je vois pour vous donner l'esprit du respect des traités.
Ouais.
C'est-à-dire que Madame von der Leyen. Et la Cour européenne de justice et la Banque centrale européenne, il y a des traités qui ont formellement interdit de prendre des décisions qui prennent sans arrêt.
Oui.
Donc, si vous voulez, les traités, oui, pour ces gens-là, c'est des chiffons de papier.
C'est comme au moment du Covid, hein, l'Union européenne n'avait pas de mandat par rapport à la politique de santé, et d'un seul coup, il se l'est arrogé, alors que c'était décidé par aucun traité.
Et maintenant, si vous voulez, ils avaient levé du pognon pour s'occuper de tout ça, il leur reste un peu, et à la place de rendre le pognon, c'est eux qui décident de ce qu'ils vont en faire. Mais ils ont, c'était un mandat qui avait été...
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été bloqué vis-à-vis de la Hongrie.
Ils se sont permis de bloquer du pognon à la Hongrie, qui leur appartenait pas, quand même.
Ouais.
Donc, si vous voulez, on a une série de gens qui ne respectent ni Dieu ni diable et qui s'appuient sur des grands principes. Et ils vont voter dans des textes comme cette imbécilité de M. Bellamy. Hein. Et donc, si vous voulez... Si...
Ouais, le texte en lui-même est bien. Après, je ne sais pas s'il sera pris toujours bien. Mais...
Vous savez, la Russie est toujours la plus démocratique du monde. C'est celle qui avait été faite par Staline en 1947-1948 avec le droit des gens, le droit de réunion et tout. Puis ensuite, il y a la pratique.
Oui.
Le droit des gens, ils avaient le droit de se réunir quelque part là-bas au fond de la Sibérie, quoi.
Oui.
Mais à Moscou, ils n'avaient pas vraiment le droit. Donc tout ça, c'est des astuces de politique qui veut rester au pouvoir sans avoir aucune justification.
Oui. Bon, je crois qu'on en a terminé avec
cette
émission.
Oui, c'est pas du tout que je veux décourager les gens, mais vous ne pouvez pas réformer une bête, si vous voulez. Si vous avez la gangrène...
Oui, il faut prendre autre chose que du Doliprane. Oui.
Là, on vous donne. Non, on essaie de vous convaincre que vous n'avez pas la gangrène. La réalité, vous l'avez.
Oui. Donc, voilà, on verra forcément, encore une fois, grosse différence entre les mots et
puis
les actes.
Si les cordiaux, comme monsieur, notre cher président, s'imaginent que c'est avec des mots qu'ils vont traiter les problèmes, ces problèmes, ils vont venir jusqu'à ce qu'ils soient traités.
Oui, et pas forcément.
Comme l'huile chouette.
Voilà, exactement.
Il y a le chien qui a dû avoir arrivé quelqu'un, il faut aller l'accueillir.
Voilà, il faut aller l'accueillir.
Merci beaucoup.
Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles émissions sur l'Institut des Libertés.